He conocido a gente queer que ocupa una casa desde hace unos años.
Alors, Irénée, qu'est-ce que ça te fait de venir habiter au TDB?
Je suis très émue. Ça sera la première fois que j'y squatte de ma vie.
Tantas cosas pasaron ahí, ¿no?
Voir être là, torse nu, un très grosse, de se frotter avec les gens, con toda.
Esa botella ya no lanza la guerrilla, vaya calentante como molotov de los 90, así ardiente, Ana Cambrienta, Marisa Caguaderi y Juana Pedro.
Empiezo a agobiarme, a tener pesadillas. Pienso que soy lesbiana, y no lo acepto.
Tout ce que je faisais, c'était juste de le cacher le plus possible. Et je me sentais hyper, hyper seule.
Passer de l'homophobie en mode de se faire traiter comme un PD à la galanterie.
En fait, c'est parce que mon désir, il est très politique.
Nous parlons en tant qu'obèse, grosse, plus désirante que désirable.
Hay que explorar todo en la vida. Porque si no es tan aburrida, y el aburrimiento mata o te hace tonta.
Me siento más bollera que nunca. Estoy donde quiero estar.
Bras zéro, brassage radio. Moi, je suis pas sur le plateau, mais je fais quand même l'intro. Je suis dans un appart à Paris et il y a quelqu'un qui joue du piano juste au-dessus. Alors j'espère que ça se calera bien avec mes mots. La semaine dernière, avec la bande de Bras Zéro, on s'est fait une soirée ciné. Bien installé côte à côte sur le canapé. Vidéoproj allumé, bol de pop-corn et tisane à la main, on a eu l'honneur de visionner Queermé, une avant-première offerte par sa réalisatrice. On est resté pendu aux images tout le long. On sentait que nos émotions se mélangeaient dans la pièce et quand le film s'est arrêté, on est sorti sur le balcon et on s'est raccroché aux mots qui nous venaient. Souvent, après un film, il y a deux équipes. Celles qui préfèrent ne pas en parler et celles qui débriefent à fond. Là, c'était ni l'un ni l'autre. Du silence, quelques phrases attrapées par-ci par-là. Queermé, ça marche. Queermé encore, queermé plus, queermé de la tête aux pieds, queermé, queer moi. Ça marche comme un mouvement, des petites histoires qui en racontent une plus grande. Ça zoome, ça contemple et ça résonne. Ça donne envie de revenir en arrière, de s'arrêter plus longtemps, au TDB comme ici, ou dans les endroits extraordinaires qu'on a traversés. Ça fait comme une douce nostalgie. C'est une histoire racontée avec générosité et vulnérabilité. Une histoire qui redonne du souffle sans mettre sous le tapis la complexité des expériences collectives. Parce que c'est bien d'expériences qu'on parle. Les expériences qui cherchent un endroit juste pour chacun et chacune. Parfois ça loupe, parfois ça enivre et parfois ça sauve la peau. Ça montre aussi qu'on a les modes d'emploi de rien. Alors on trébuche. On doute, on invente et on s'en va, parfois aussi. Ici, la réalisatrice prend le temps de revenir, un bout de temps après. Peut-être parce que les histoires, elles ont toutes des débuts et des fins. Et que parfois, on peut s'appliquer à écrire une fin aussi belle qu'un début, comme avec Quirme. C'est ça que ça m'a fait. J'ai adoré voir ce film avec une bande, chercher dans les images celles et ceux qu'on pouvait reconnaître, chercher les petits bouts qu'on avait manqués. Merci et longue vie à ce film et à nos histoires, ni invisibles, ni oubliées, qu'il fait bon de se remémorer ensemble. Bonne émission.
Bonsoir. Du coup, on est à Canal Sud, au 92.2, en direct, pour l'émission Brasero. Et on est avec Irénée ce soir pour parler de ton film Quirme.
Bonsoir.
Alors, Irénée, du coup, tu es réalisatrice de documentaires. Tu as grandi en Espagne, dans un village avec ta famille. Et tu es venue vivre en France ensuite en 2007 pour des études de cinéma. Tu as d'abord fait un Erasmus à Bordeaux en art et spectacle du cinéma et un master de création à Angoulême. Et depuis 11 ans, tu vis à Toulouse. Et alors du coup, pourquoi Toulouse? Tu avais entendu parler d'un squat transpédéguine et tu t'es dit que c'était l'occasion de rencontrer ta communauté. Et voilà, tu es venue à Toulouse vivre... vivre avec les queers, squatter, et t'as fait un film sur ce squat où t'as vécu en 2015.
C'est ça, j'avais juste rajouté
ouais.
qu'après mon village, j'étais quand même à Barcelone pour faire des études de cinéma. Et après, je suis venue en France pour, du coup, plus spécifiquement pour les documentaires de création. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré des potes pendant la formation pendant 2 ans, et avec lesquels on a aussi vécu ensemble en collectif. J'ai toujours voulu ça, et recréer des familles. Et après cette expérience, où on était à fond avec la création documentaire et la vie en collectif, on s'est dit qu'on pouvait aussi créer un collectif de cinéma pour partager des outils, pour faire des films ensemble, des ateliers. Et du coup, la question, c'était où s'est retrouvé après avoir vécu 2 ans à Angoulême, parce qu'on ne voulait pas rester là-bas, même si moi, j'adore. Et bon, finalement, on était 6. Il y a eu aussi les indignés en Espagne. Moi, je suis partie là-bas. Il y a des gens qui ont rejoint les copines. Il y a 2 amis qui étaient venus déjà à Toulouse. Et comme nous, on n'arrivait pas, ils se sont fatigués. Ils se sont dit, nous, on abandonne. Donc au final, il y a un qui s'est séparé de sa copine. Et on s'est retrouvés ici pour faire du cinéma. Donc il m'avait dit à l'époque, soit on va à Nantes, soit on va à Toulouse. Et moi, je me suis dit, on va à Toulouse, comme ça, je serai plus proche de ma famille et de mes amis d'Espagne. Donc, en 2014, on est arrivé ici. Et moi, je voulais faire du cinéma. Je sais qu'en France, c'est plus facile faire du cinéma qu'en Espagne. Et par rapport à tous les réseaux associatifs, les subventions et toute la tradition qu'il y a de cinéma, donc documentaire, les CNC et tout ça. Et par ailleurs, j'ai commencé à traîner dans les collectifs, et les communautés féministes et queer. Et on m'avait parlé qu'il y avait un squat non mixte transpédéguine. Et ça me faisait rêver. Comme j'avais des amis qui connaissaient les gens, elle nous a mis en contact. Et je suis arrivée à Toulouse pour faire du cinéma et retrouver les queers. Donc voilà, aujourd'hui, Queer Me.
Trop bien. Du coup, sur les 6 personnes avec qui tu devais aller à Toulouse, il n'y a eu plus que toi à la fin.
Non, il y avait un autre qui est toujours là.
Okay.
C'est mon meilleur ami. On lui fait un coucou parce qu'il est en train de nous écouter.
Ah, coucou. Et alors, sur ce film Quirme, pour les personnes qui écoutent et qui ne l'auraient pas vu, est-ce que tu peux raconter un peu c'est quoi ce film et aussi pourquoi tu as eu envie de faire ce film?
Mais du coup, comme je disais, en 2012, je suis retournée un an à Barcelone. Et j'ai commencé à traîner avec des gens queer et à aller dans des soirées non mixtes entre personnes queer ou gwyn ou transpédéguine. Et je me rendais compte que c'était très différent à tout ce que j'avais vu avant. Et bah, du coup, avant, j'ai traîné plutôt dans des ambiances hétéro, ce qui est normalement tout, partout. Et là, je me rendais compte qu'il y avait des choses qui s'est passées qui étaient différentes, que la façon de faire la fête... Et la façon de parler avec les gens, de draguer, c'était une autre chose. Et c'était merveilleux. J'étais très surprise et j'ai kiffé ça. Je ne me sentais pas à l'aise au début, mais je me suis dit que c'est une réalité parallèle qu'il faut raconter parce que c'est trop chouette. Et du coup, j'avais déjà l'idée de faire un film. Et quand je suis arrivée à Toulouse, je me suis dit où est-ce que je pourrais faire ces films. Et d'abord, j'ai connu un squat qui s'appelait La Vite, mais ça a duré très peu. C'était un mélange de gens qui venaient des différents squats qui étaient fermés. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai pas eu le temps de faire ça. Parce que pour faire du documentaire, il faut quand même beaucoup de temps, gagner la confiance des gens et tout ça. Et très vite, j'ai connu le TDV. Et j'ai allé pour faire la fête, pour des présentations de livres, de fanzines, des activités, des journées. Et très vite aussi, il y a une chambre qui s'est libérée et on m'a proposé d'aller vivre là-bas. Et les gens de là-bas qui habitaient à cette époque, ils voulaient aussi faire du cinéma. Du coup, on a fait différentes résidences, on a fait des courts-métrages. Et voilà, moi j'ai filmé un peu pour ces films, mais que j'ai laissé tomber à un moment donné l'idée parce que c'était trop intense vivre là-bas. Et du coup, c'est maintenant que, des années plus tard, j'ai récupéré ces images comme archives et que j'ai fini pour faire ces films. Donc voilà, l'idée était toujours là, mais c'est pas tout le temps que j'ai pris la caméra pour filmer pour ces films. Mmh. Et du coup, je peux raconter de quoi ça parle le film, c'est
ouais.
ça Bon, Queer Me, c'est un documentaire très personnel, c'est écrit à la première personne. À la fois, j'ai voulu raconter mon expérience au TDV, au Trou des Balles, dans cette squat transpédéguine de Toulouse qui a duré 10 ans. Moi, j'ai vécu là-bas presque un an, et du coup, à la moitié de sa vie, en 2015, quand j'avais 30 ans. J'ai fêté mes 30 ans là-bas. Et les fils rouges de l'histoire, c'est quand je rentre au squat et quand je pars. Spoiler, je pars à un moment. Donc ça, c'est assez chronologique. J'ai des archives de cette époque et c'est un peu l'histoire principale. Mais il y a beaucoup des allers-retours dans mon passé. Et aussi, on a fait un tournage il y a 2 ans où j'ai pu revoir les gens avec lesquels j'ai vécu pour parler de l'expérience au TDV et qu'elles et eux, ils parlent d'elles-mêmes pour parler de la culture TPG, de qui on est, les personnes transpédéguines et de pourquoi on a vécu à un moment de nos vies dans cet endroit en non-mixité. Voilà, donc les films, c'est un portrait à la fois de mon histoire et aussi des autres. Et je pense que nos histoires se nourrissent les unes des autres.
Mmh. Bah, c'est vrai que nous, quand on a regardé le film, c'est un des trucs qu'on s'est dit après, quand on a regardé avec le crew de Brasero, on se disait, c'est fou, enfin, c'était que, comme t'as hyper bien réussi à faire un truc de raconter une histoire collective, en même temps en assumant un truc de subjectivité, parce que c'est vraiment ton histoire dans l'histoire du TDB, et du coup que ça fait ce lien entre la petite histoire et la grande histoire, qui est hyper, enfin moi que j'ai trouvé hyper équilibré, enfin, qui était trop chouette à regarder. Et que quand même le TDB c'est aussi en tant que squat transpédéguine un lieu où c'était une manière de politiser l'intime, de collectiviser l'intime, et que du coup ce film c'est assez à l'image de ça, je trouvais, de comment ouais tu racontes une histoire collective à travers des histoires individuelles et intimes qui sont la tienne et celle des autres. Mmh. Et du coup, bah, je me dis que c'était pas un hasard. Et je me demandais aussi, sur le travail d'écriture, si t'avais envie de raconter un peu, est-ce que ça a été difficile de faire ce travail d'écriture? Est-ce que ça a été long? Comment tu t'y es pris?
Mais le travail d'écriture a été très long, parce qu'on n'a pas écrit au début, tourné après et fait les montages. On a écrit, on a vu les images que j'avais. J'ai continué d'écrire, on a commencé à monter, on a décidé de faire des nouveaux tournages, parce que ça, c'était pas prévu au début, et aussi on a fait un appel à don d'archives du TDB. Et du coup, l'écriture s'est faite aussi pendant les montages, parce que le montage, il a été très long aussi. Donc, même à la fin, quand bon, y a quand même une voix off qui guide l'histoire, et jusqu'au dernier moment du montage, on l'a encore rajouté et enlevé de la voix. Donc vraiment, l'écriture a été très longue. Et le montage aussi.
Ok. Vous étiez 3, c'est ça?
En fait, à la base, il y avait Odile, qui est ma productrice, qui est une bonne amie à moi depuis longtemps, qui est la productrice de Corpus Films, elle est à Poitiers. Et on a commencé le projet à deux. On a eu le préachat des deux télévisions, de Canal Dudé du Pays Basque français et TV7 de la Nouvelle-Aquitaine. Et c'est grâce à ça qu'on a pu après avoir les aides régionales et le CNC et tout ça. Et une fois que... Bah du coup, au début, j'écrivais les dossiers et on avait des collègues aussi qui m'ont aidé à écrire les dossiers pour pouvoir le présenter, pour avoir les aides. Mais ça m'aidait aussi à penser le film. Mmh. Et parce que moi, j'ai parti de ces archives, des images que j'avais tournées comme ça, comme si on fait des stories aujourd'hui sur Instagram, avec une petite caméra dans la maison ou dans les manifs ou quoi. Et après, il a fallu voilà, compléter tout ça. Et après, du coup, il y a Céline Ducreux qui a été la monteuse et qui est aujourd'hui aussi la co-autrice du film parce qu'elle a aussi écrit avec moi le film pendant les montages. Et là, voilà, elle a aussi fait des choix et proposé des choses pour le film. Et voilà, surtout, on était tous les trois. Et, parce que Odile était aussi, comme elle est aussi amie et tout, elle était très proche. Et c'était un dialogue vraiment à trois. Et après, pour d'autres moments, étapes de la fabrication du film, il y a eu d'autres amis qui ont participé aussi. Et tout s'est nourri de ça.
Et tu as dit que c'était du coup un gros travail d'archives. Donc, si j'ai bien compris, il y avait toi qui es venu avec ton envie de faire un film et du coup, tu avais ta caméra à la main à plein de moments pour prendre des images et tu as fait un appel à images et des personnes t'en ont envoyé.
En fait, moi, je voulais à la base faire un film sur moi et très intime, aussi sur ma corporalité et mes questionnements de genre, sexualité. Et après, il y avait quand même l'histoire du TDB et mon histoire au TDB. Et les filles, elles trouvaient que j'avais pas assez de matériel pour faire un film. Du coup, j'étais assez bloquée à beaucoup d'étapes de la fabrication de ces films. Et en été, elles m'ont dit, soit tu tournes de nouvelles images pour compléter les tiennes, soit on fait un appel d'archives du TDB pour compléter les films. Et on a fait les deux. C'est là où on a décidé de filmer les gens avec certaines personnes avec lesquelles j'avais vécu. Et je me rappelais des gens qui avaient passé par les squats, qui avaient pris des photos ou qui avaient fait des petits films. Il y a Clem qui avait fait deux courts-métrages aussi, donc il y avait aussi tous les rushs. Et Maran qui avait fait un petit film aussi. Et parfois sur Instagram, je voyais qu'il y avait une image au TDB, du coup je suis allé demander à cette personne « Hola, j'ai vu qu'il y avait cette photo, est-ce qu'il y aura, t'aura pas de plus ?» Et certains m'envoyaient 5, et parfois il y a Lenny Marley qui habite à Toulouse aussi, qui a fait beaucoup de portraits de personnes TPG au TDB. Et du coup, voilà, j'ai recevé tout ça, des personnes plus professionnelles ou plus des gens qui prenaient des photos en soirée. Et du coup, avec tout ça, on a fait un choix de photos qui pouvaient nous aider à raconter cette histoire.
Ok. Du coup, au début, ça manquait d'images. Et puis après, il y a quand même eu un travail, j'imagine, de sélectionner les images d'archives, quoi.
Oui, et à la fin, les derniers choix d'archives, c'était du coup sur moi. Parce que je pense que c'était aussi difficile de parler de moi. Il y avait un peu de pudeur. Et j'ai aussi numérisé de HI8, de mini-DV. Voilà, plein de formats qui aujourd'hui sont anciens. Et pour chercher aussi des images de moi, petites ou ados ou jeunes, et pour essayer de faire cet équilibre entre parler de moi et parler des autres.
Et du coup, parce que donc, c'est un film d'archives, mais c'est vrai que quand même une des matières très importantes de ce film, c'est aussi toi-même. On voit plein de moments où bon, soit on comprend que tu es derrière la caméra parce qu'on t'entend, soit tu es en train de te filmer, soit il y a des gens qui te filment. Moi, je me demandais si tu avais envie de nous raconter un peu ce que ça a fait, cet exercice de se filmer soi et que ce soit soi-même le sujet du film principal.
Mais ça, moi, j'avais déjà fait un film sur ma famille, Descend, à partir d'archives familiales. Et d'autres courts-métrages. Donc c'est vrai qu'à un moment de ma vie, J'ai connu le cinéma en première personne, le cinéma féministe, et comment, à partir d'histoires personnelles, on peut parler des choses plus générales. Et en plus, normalement, ça touche plus l'émotionnel parce que c'est des vécus où on peut se reconnaître. Et parfois, on nous raconte des choses politiques ou théoriques, on comprend beaucoup des choses, mais moi, ça me manque un peu l'humain et être touché par l'émotionnel et les contradictions et tous les doutes qu'on peut avoir. Et du coup, ça fait déjà beaucoup d'années que j'ai pratiqué ça. Mais filmé, parce que du coup, je pense que comme j'ai senti beaucoup de manque de référents dans ma vie, que j'ai vu l'image de la femme ou des lesbiennes, elle est très stéréotypée dans beaucoup de représentations des pubs, de télé, de cinéma, j'étais assez fâchée. Et toutes ces histoires hétérosexuelles et tout. Du coup, j'ai pris conscience de ça il y a longtemps et je me suis dit, mais moi, j'ai la chance de pouvoir faire du cinéma. Donc, c'est une responsabilité pour moi de laisser des traces des vies qui ne correspondent pas à la norme. Du coup, comme c'est aussi délicat filmer les autres, j'ai commencé à me filmer à moi, déjà à partir de ça. Et du coup, j'ai dit que comme si... Je m'utilise dans le film pour parler des autres et j'utilise les autres aussi pour parler de moi. Et du coup, je voulais aussi parler de comment une personne aujourd'hui, et avec les contextes socioculturels, capitalistes, tout ça qu'on vit, et toutes les questions féministes aussi, parce que c'est pas les mêmes quand j'étais jeune ou maintenant. Tout le féminisme et les queer, c'est pas de la même manière. C'était pas, on n'avait pas les mêmes accès à ça. Si t'étais dans un village ou une ville. Donc je me suis dit, j'ai envie de laisser des traces de moi, de mes contradictions, de mes expériences et mes apprentissages. Parce que peut-être ça peut être un archive du futur aussi. Si, parce que maintenant, parfois on lit des livres et on peut imaginer comment la personne se sentait à cette époque-là. Mais du coup, j'ai fait ça.
Ouais. Et c'était comment comme exercice? C'était facile? C'était difficile? C'était...
Après, moi, pour moi, c'est assez naturel.
Ouais.
Je ne réfléchis pas trop quand je le fais. Ça vient comme ça et c'est un jeu aussi. Pour moi, quand je redécouvre les images, je me dis, mais en fait, je suis en train de passer un bon moment avec mes potes. Et parfois, il y a une envie de laisser des traces. Mais parfois, c'est juste on fait les cons et on se filme. Et après, ces images vont dire des choses de toute façon parce qu'on voit les affiches qu'il y a dans les murs. On voit la façon comme on parle, les expressions qu'on utilise, comment on est habillé, et tout ça, ça donne de l'information. Et je ne sais pas quoi dire.
Peut-être, ouais, je n'avais pas vu que le temps y passait déjà. Et du coup, on va faire une petite pause de musique. Et comme ça, on peut respirer un peu et on revient après la pause musicale.
Verte, ajá. No sabes lo que podría hacerte. Ay, si pudiera hablarte, hasta dónde podría llegarte. Si pudiera tocarte, estoy pensando que voy a decirte. No dejo de mirarte, te daría de martes a martes. Cuando te conocí, no pensaba terminar así. La primera vez que te vi, no pude negar lo que sentí. Primero decís que sí, sí, dura poco pero soy feliz. Después me decís que no, la te bajas, sabes que estoy ahí, ahí. Como quisiera verte, no sabes lo que podría hacerte. Ay, si pudiera hablarte, hasta dónde podría llegarte. Si pudiera tocarte, estoy pensando que voy a decirte. No dejo de mirarte, te daría de martes a martes. Ya sabes lo que me pasa, te quiero en mi colchón. Enon, no sé lo que te pasa, me voy hasta Morón. Ya sabes lo que me pasa, estoy sola en el sillón. Bajón, no sé lo que te pasa, me robaste el corazón. Chabón,
ladrón,
no tengo ningún límite en el campo del amor. Tendrías que conocerme y no colgarte del dolor. No hagas tanto trámite, me está pegando el sol. Quédate conmigo que yo tengo lo mejor. Quiero que lo que me pasa a mí te pase a vos. Sé que hay mucha gente
gente, pero esto es entre los dos. En la despedida se me pudre la ilusión. Estás vacilando y yo en el medio del montón. Como quisiera verte, no sabes lo que podría hacerte. Ay, si pudiera hablarte, hasta dónde podría llegarte. Si pudiera tocarte, estoy pensando que voy a decirte. No dejo de mirarte, te daría de martes a martes.
Cuando te conocí, oh, 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 cuando te conocí, oh, 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 cuando te conocí, oh, 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 oh.
Todo el día esperando que me vengas a buscar.
Como quisiera verte, no sabes lo que podría hacerte. Ay, si pudiera hablarte, hasta dónde podría llegarte. Si pudiera tocarte, estoy pensando que voy a decirte.
Yo qué sé.
No dejo de mirarte, te daría de martes a martes. Como quisiera verte, no sabes lo que podría hacerte. Ay, si pudiera hablarte, hasta dónde podría llegarte. Si pudiera tocarte, estoy pensando que voy a decirte. No dejo de mirarte, te daría de martes a martes.
No tengo ni siquiera el campo del amor. Tendrías que conocerme y no colgarte del dolor. No hagas
si
tanto trato, me está pegando el sol. Quédate conmigo que yo tengo lo mejor.
Si
quiero que lo que pasa
tocarte,
a mí te pase a vos. Sé que hay mucha gente, pero esto es entre los dos. En
no
la despedida
de
se me pudre la ilusión. Estás vacilando y yo en el medio del montón.
Como quisiera verte, no sabes lo que podría hacerte. Hasta dónde podría llegarte. Si pudiera tocarte, estoy pensando que voy a decirte. No dejo de, no dejo de, no dejo de mirarte.
Et on est toujours sur Canal Sud 92.D, 92.D, dans l'émission Brasero avec Irénée pour parler de ton film Quermé. Et est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi la musique qu'on vient d'entendre?
On vient d'entendre Sarah Eve et la chanson ça s'appelle Moron. Et bah, du coup c'est drôle parce que cette chanson elle était dans un de mes rushs du TDV. À un moment où je suis en train de peindre un triangle noir sur les murs. Et je parle avec un pote et en fond, il y a cette musique. Du coup, Sarah Eve, c'est une rappeuse argentine. Après, elle a fait plutôt plus de reggaeton aussi. Et je viens de la voir en concert à Saragosse. Donc, c'est chouette. Donc, moi, je l'ai connue en 2012-2013. Comme elle est féministe, anarchiste, on était à fond. Et c'est par exemple une des personnes qu'à l'époque du TDV, j'ai suivi en concert. Je l'ai vue à Barcelone, on l'a fait venir ici au Pavillon Sauvage. Voilà, c'est, on avait des, moi j'avais des obsessions comme ça et les gens suivaient. Donc c'est comme Chaneka par exemple, c'est un groupe aussi de reggaeton transféministe, d'Inguine et de PD, et très amis du TDV. Et quand ils faisaient un concert, les gens allaient, si c'était à Rome, à Rome, si c'était au Pays Basque, au Pays Basque. Et c'était très joli de voir comment les bandes de potes partaient inconditionnellement. Et du coup, j'étais très contente que ça apparaisse. Bon, c'est pas très présent dans les films, mais je sais qu'elle est là et que ça fait partie de ma culture de l'époque. Et après, je voulais parler, par exemple, de Dadalu aussi, qui est une artiste chilienne qui a commencé à s'autoproduire et elle fait plus du pop. Et c'est aussi une amie que j'ai vue au Pavillon Sauvage. Et il y a deux chansons à elle qui apparaissent dans les films. Et je suis très contente aussi que ça fasse partie de cette histoire parce que ça fait partie aussi de mon histoire. Et c'est des copines que, voilà, on s'écrit encore et tout. Et après, du coup, je ne sais pas si tu veux qu'on parle un peu aussi de...
Ouais.
De la musique du film, oui. c'est que ce qui nous est arrivé, c'est que du coup, dans les rushs, il y avait beaucoup de musique mainstream. Et quand on était dans les chambres, on était dans la Pride, il y avait du Madonna, du Sia. Et c'est vrai que quand on fait des films produits, bah, il faut avoir les droits. Et c'était soit très cher, il y avait la gasoline aussi. Et soit ils ne le laissent pas l'utiliser. Donc on a dû transformer tout ça. Et je me suis dit, bon, c'est cool parce que j'avais profité pour mettre la musique de mes amis et pour parler aussi de ces moments, qu'est-ce qu'on écoutait. Et je pense que ça va, que quand on regarde le film, ça passe bien. Mais moi, je crois que c'était comme ça, mais non.
Moi, je ne me suis pas rendu compte. Tu m'as dit ça hier quand on a un peu discuté du film pour préparer ce soir. Et je me suis rendu compte que je ne m'étais pas rendu compte, quoi. Du coup, oui. Bon, je ne sais pas si je suis un bon exemple, mais en tout cas, ça marche.
Bah, du coup, on a trafiqué aussi les sons pour que, par exemple, ça paraît que c'est dans une chambre ou que c'était dans la Pride. On a fait tout un travail aussi de montage son et de mixage pour que ça soit crédible.
Ouais. Oui, et c'est trop bien. Ça fait aussi découvrir c'était quoi les groupes de l'époque, les groupes transpédéguines de l'époque aussi, enfin de l'époque, de ce moment-là, quoi. Trop bien. Et pour revenir encore un peu sur le travail de création de ce film, on se demandait aussi comment il avait été réceptionné par les personnes, à la fois sur le moment, comment les personnes réceptionnaient le fait qu'il y ait eu une caméra, qu'il soit filmé, est-ce que les personnes sont rentrées dans le jeu facilement, est-ce qu'elles t'ont suivi facilement, et aussi aujourd'hui, est-ce que y a des personnes de la communauté queer qui ont déjà vu le film. Voilà, comment ça a été reçu?
Mais à l'époque, comme j'ai dit, c'est avant, il y avait l'idée de créer d'images. On faisait des blagues et on se disait que peut-être la police avait plus d'images de nous que nous-mêmes. Et il y avait un peu aussi cette responsabilité de dire si nous, on ne laisse pas des traces de nous, soit il n'y aura pas, soit d'autres parleront pour nous et le feront mal. Du coup, je pense que les gens, ils avaient quand même envie de participer à ça. C'était pas évident pour tout le monde, parce que voilà, chez les queers, il y a beaucoup de complexes aussi sur la corporalité, les personnes trans aussi qui changent petit à petit. Et moi, j'avais aussi un peu de trop de respect pour ça aussi. Moi, je pense qu'au final, j'avais pas beaucoup d'archives. J'aurais pu filmer beaucoup plus. Mais beaucoup, c'était aussi dans des cadres de fêtes où les gens boivent ou se droguent, on est dans des états n'importe comment. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas filmées aussi. Mais après, j'avais aussi cette démarche déjà de faire des films sur moi et sur mon entourage. Donc, je pense que comme les gens étaient mes potes, ils me faisaient confiance. Et voilà, c'était comme un jeu à l'époque. Parfois, on se filmait, parfois pas. Et quand on se filmait, on rigolait et voilà. Et après, du coup, on a passé ces films cet été au Festival de Douarnenez. Et il y avait beaucoup de gens queer qui étaient là, il y avait des amis aussi. Et encore, ils ont parlé de ça, de comment c'est précieux d'avoir d'images d'un squat et un squat queer, parce qu'on se méfie beaucoup de l'image et du journalisme, d'Internet, du pouvoir, de la représentation. Et qu'on a beaucoup refusé d'être filmé. Et aussi pour des questions légales aussi. Parce que dans des squats, parfois, on fait des trucs aussi illégaux. Et ça peut poser des problèmes. Et du coup, moi, je pense que je l'ai fait avec beaucoup de respect et d'amour. et aussi, quand j'ai fait l'appel d'archives, je ne savais pas s'il y aurait beaucoup. Et au final, il y a pas mal. Ouais. Donc, voilà. Il n'y a pas les smartphones comme aujourd'hui où on a plus de... Voilà, des facilités à faire des photos, des vidéos. On est quand même en 2015. Mais voilà, on cherche et on trouve. Et du coup, voilà, les gens, ils étaient très émus, très contents que ça existe, que ça nous représente, que ça peut valoriser aussi nos existences. Et aussi, ce qui était... Quand j'ai montré... parce que du coup, j'ai montré les films aux gens qui apparaissent dans les films à Marseille. La plupart, ils sont là-bas. Et c'était drôle parce qu'il y avait certains qui disaient... Mais en fait, on ne se rappelle pas trop de cette époque et on a gardé aussi beaucoup de souvenirs d'embrouilles, des conflits. Et ce film nous montre qu'on s'amusait, que c'était trop bien parfois aussi. Donc, c'était émouvant aussi d'entendre ça.
Et les personnes, elles ont vu le film une fois qu'il était fini ou elles ont vu un peu au fur et à mesure les personnes du film?
En fait, les archives, je pense que personne ne les avait vues. Et, après, je les ai vues pour faire des repérages en Zoom et faire des entretiens audio pour parler de qu'est-ce que c'est squatter, qu'est-ce que c'est les queers, et toi, ton enfance, tes parents, et les TDV. Et après, certains, on les a filmés. Donc, ils n'avaient pas vu les images, ils n'ont pas vu le montage du film, mais ils ont participé de la fabrication des images. soit au DDV ou 7 ou 8 ans plus tard. Et du coup, je les ai montré les films finis, en fait. Et j'avais trop peur.
Ouais.
Et ça s'est bien passé, donc c'est trop cool. Merci.
Trop bien. Je me demandais aussi, là, quand tu disais que c'était aussi une manière de montrer des images de, je ne sais plus comment tu l'as dit mieux que moi, mais de la communauté queer, de soi-même et de surtout tes questionnements, etc. Est-ce que, toujours dans la réception, il y a des personnes plus jeunes, personnes queer, qui auraient vu le film et qui t'en ont dit quelque chose et que, comme un truc de, est-ce que ça, t'as eu déjà des retours sur aussi un des objectifs de ton film ? De créer de la représentation pour les personnes ?
Bah, je pense que même il y a des queer jeunes qui ont squatté aussi. Bah, il y avait des gens qui... Moi, je ne sais pas si c'était tellement jeune ou pas, mais j'avais l'impression quand même que c'est quand même... Même s'ils si n'ont pas squatté, ils étaient dans des collectifs ou ils sont dans des collectifs de drague ou quoi. Et ça les parle. Je pense qu'ils se sentent représentés. Après, c'est vrai qu'à Madrid, quand on avait fait les sons, et on l'a fait avec des lesbiennes, et elles nous disaient... ah oui, vous, à votre époque, vous aviez ces trucs de devoir vous cacher à vos familles et devoir presque s'exilier pour exister. Et qu'elle, elle sentait que c'était pas comme ça pour elle, que c'est beaucoup plus acquis et facile d'être lesbienne et voilà, et parler de ça dans la famille ou quoi. Mais après, le film, il s'est montré très peu encore. Donc,
ouais.
Je sais pas... J'ai pas trop eu de retour. Bah, si, il y a des gens qui m'ont dit, parfois on me contacte par Instagram, on me dit, ça m'a trop touché ces films, je sais pas pourquoi, mais ça fait du bien. Et ça fait du bien de savoir qu'il y a un lieu comme ça qui a existé et que tu puisses raconter cette histoire de cette manière, comme un truc un peu d'ouvrir, de libérer. Je pense que c'est un peu comme ça.
Yes. J'avais bien envie qu'on parle aussi de l'histoire un peu des luttes que raconte ton film, parce que le TDB, c'était un espace de lutte, de lutte transpédéguine, mais tu parles aussi... il y a quand même beaucoup de sujets dans ce film. Peut-être déjà, est-ce que tu veux raconter le terme transpédéguine, d'où ça vient, et est-ce que... Ouais.
Mais du coup, les transpédéguines, ça a été comme une traduction du mot queer de l'anglais. Le mot queer de l'anglais, ça veut dire bizarre. Et c'était l'insulte qu'on donnait aux personnes trans, travestis, homo, lesbiennes des États-Unis des années 60-70. Et du coup, ils ont décidé de se réapproprier de cette insulte pour dire oui, on est queer. Et on s'assume et on s'aime. Et voilà. Et du coup, prendre la réappropriation de l'insulte pour revendiquer ses identités de genre et sexuelles non normatives. Et après, du coup, le terme transpédéguine, il y a beaucoup de légendes. Moi, on m'a dit que ça a été créé à Toulouse dans les années 2000-2010. Et c'était pareil pour dire les trans, les PD et les gwyn. Et c'est comment on nous insulte aux homos, aux lesbiennes. Et on a envie de politiser ces mots pour s'identifier et dire... Et en plus, on n'est pas des LGBT, non? On est des TPG. Ça veut dire qu'il y a une vision critique sur cette société et sur ce monde qui est plus radical que peut-être un mouvement LGBT qui peut être plus à s'adapter à la société ou quoi.
Ouais. Et ce squat, c'était quand même un squat en non-mixité. Du coup, encore plus peut-être en 2015, c'était peut-être moins acquis qu'aujourd'hui, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas rien quand même de vivre en non-mixité. Et dans le film, il y a une phrase qui ressort, moi je m'en souviens même que c'était vraiment la phrase du TDB, c'était « Le monde appartient aux hétéros, pas le TDB ». Et bon, moi, pour la petite histoire, quand je suis arrivée à Toulouse, j'étais un peu baby queer, on va dire. Et je me souviens que le TDB, c'était vraiment le lieu un peu... à la fois fascinant, mais à la fois flippant aussi. T'avais hyper envie d'y aller parce que tu sentais qu'il y avait plein de trucs à vivre là-bas et à expérimenter, à voir et tout. Et en même temps, c'était un peu flippant, quoi. Je sais pas si t'as fait ça aussi. Mais ouais, du coup, j'imagine c'était pas rien de vivre dans cet espace où c'était quand même le truc de le monde appartient aux hétéros, pas le TDB. Et du coup, on vit là, quoi.
Mais c'est vrai que ça, c'était aussi dans des affiches qui traînaient dans la maison. Ça nous rappelait ça, parfois. Et que... qu'est-ce que c'était la question?
Ouais, je sais pas. Bah, de raconter un peu cet espace d'expérimentation queer, TPG, de sexualité, de découverte des corps aussi, de tout ça, quoi.
En fait, le TDV, il a été ouvert en 2009. Et c'est vrai, bah, du coup, là, il y a eu les Lady Fest, il y a eu d'autres festivals aussi. Et oui, moi, j'ai parlé de 2015 parce que c'est quand j'y suis arrivée, mais même de 2015 à aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et quand moi, j'ai commencé à découvrir les mouvements queer à Saragosse ou à Barcelone, bah, à cette époque-là aussi, c'est un peu ce que tu dis. D'un côté, c'est fascinant, t'as de la curiosité, même... oui, t'as trop envie d'aller parce que tu appartiens à ça, mais tu le sais pas encore, mais bon. Et après, voilà, c'est flippant parce que c'est quand même des personnalités très radicales. Et moi, oui, je pense qu'au début, ça m'a impressionné un peu, mais très vite, je suis devenu pote avec les gens et on a rigolé et tout. Mais oui, je me rappelle parfois des fêtes où quand même, il y avait des gens à l'entrée qui te laissaient passer ou pas. Et même à Barcelone ou quoi, les copines disaient « Ouais, si on va dans des trucs, il faut être avec la capuche, pas être trop féminine ou quoi, parce que sinon, on te laisse pas rentrer. » Et quand on parlait avec les amis de ça, ils se rappellent de ça, que c'était un peu flippant d'aller là-bas et que les gens n'étaient pas sympas non plus, tu vois. Donc, oui, mais après, j'ai plein de potes aussi qui ont passé une soirée là-bas et que ça les a presque changé la vie.
Ouais, grave. Et je trouve que ton film me montre aussi comment c'est aussi... Ben, tu montres beaucoup l'aspect de la fête, si tu as envie d'en dire un petit peu plus, mais ça montre aussi comment c'est aussi en réaction à toute la violence qui est vécue dans le monde de tous les jours. Et du coup, ce truc-là aussi, d'être pas forcément hyper sympa au début, enfin, il y a un truc très politique aussi de... ben, en fait, là, on a un espace justement en non-mixité où on se protège aussi des violences qu'on vit dans la vie quotidienne, quoi.
En fait, c'est ça, c'est que les fêtes au TDV, c'était presque fête after. Et on avait beaucoup de temps pour pouvoir danser, se rencontrer, parler, manger, parce que voilà, c'était quand même bien organisé et on prenait beaucoup soin les uns des autres. Et moi, ce qui me plaisait, c'est ça. En plus, il y avait une piscine. Et il y a un jardin très grand et un espace plus... salon. Donc, le TDV était petit, mais il y avait beaucoup d'endroits pour pouvoir se poser et vivre différents types d'expériences. Et voilà, à la fois, c'était un lieu d'habitation, mais un centre social où il s'est passé des choses. Et la fête, bah, ça s'est passé beaucoup. Et moi, à un moment, ça m'a un peu saturé, la drogue, la consommation des drogues, tout le temps faire la fête et tout. Mais c'est vrai que maintenant, avec la distance, je me rends compte comment c'était important pour nous des espaces comme ça pour les personnes queer, avec des corporalités non normatives, avec des sexualités non normatives, pour pouvoir exister, se valoriser, être ensemble. Les gens qui n'allaient pas bien, ils traînaient par là et ils n'étaient pas seuls. Et on pouvait rencontrer des gens. Les TDV, à l'époque, c'était des peu squad en mixité queer, je dirais, du monde. Du coup, il y avait des gens qui passaient par là en été parce qu'ils voyageaient d'un point à l'autre et on pouvait l'héberger. Il y avait des personnes trans qui arrivaient et qui disaient « Nous, on se méfie de dormir n'importe où et ici, on sait que ça va bien se passer. » Du coup, c'est vrai que ça a été un lieu vraiment pour se trouver à soi-même et pour trouver des référents, des personnes que tu t'es dit « Ah, mais cette personne me plaît, je pourrais être comme elle » ou je peux essayer d'être comme ci, comme ça, parce que quand on est dans la société normale, ben, il y a beaucoup de choses qui parfois nous empêchent d'être nous-mêmes, par peur à souffrir l'homophobie, la transphobie ou quoi.
Et il y a un moment aussi dans ton film, c'est une scène où tu parles avec la pipa, et tu commences à lui dire un truc, et je me demandais si tu voulais en dire un peu plus, où tu lui dis que qu'aujourd'hui les luttes, elles ont un peu changé et qu'il y a peut-être aujourd'hui d'autres luttes qui paraisseraient plus urgentes, et que du coup, en tout cas, que tu vois un changement entre le moment où on vous voit en 2015 et aujourd'hui. C'est en quoi que tu dis que les luttes, elles ont changé, ou que c'est...
Bah, à l'époque, on avait 20 ans, 30 ans. Et je pense qu'on était beaucoup sur les luttes identitaires et de justement se réapproprier de ces termes transpédéguines ou être féministe ou transféministe et, ou queer. Et moi, je me rappelle que j'allais dans plein de festivals, d'ateliers, des choses qui étaient organisées par des gens queer et féministes. Et on parlait de ça, et on lisait des livres, et on écoutait de la musique, des podcasts, et parce que c'était parler de nous, et parce que voilà, c'était des idéologies politiques qui nous parlaient, et qu'on voulait contribuer aussi à faire partie de ça. Et moi, j'étais obsédé. Moi, même à mes parents, j'ai parlé de ça tout le temps. Et ils me disaient, Mylène, il y a d'autres choses dans la vie et dans le monde, peut-être que tu te fermes un peu. Mais pour moi, c'était tellement important parce que c'était comme trouver des copains qui me comprenaient ou qui me donnaient des pistes pour comprendre mieux mon existence aussi. Et l'existence d'autres personnes. Et du coup, je pense que quand j'ai parlé avec la Pipa, je lui ai dit, bon, maintenant on a changé. Il y a presque 10 ans qui se sont passés et on grandit. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas de la même manière à vouloir lutter et parler de ça et visibiliser ça, qu'on l'a déjà incorporé. Mais ça, c'est intéressant dans les films aussi, parce qu'on voit les gens il y a 10 ans et maintenant on n'est plus dans les squats, dans ces bulles un peu parallèles et hors du monde. Donc on est tous revenus à la société normative en ayant vécu aussi cette expérience. Donc c'est un peu intéressant comment chacun et chacune vit aujourd'hui avec sa dissidence sexuelle et des genres, et aussi avec la galère de il faut vivre, il faut louer ou acheter une maison et travailler en étant qui on est ou en les cachant ou pas. Et du coup c'est un peu dans ça où j'ai dit à Pipa, avant on était à fond, maintenant on est moins à fond. Peut-être qu'il y a d'autres luttes plus urgentes. Ça c'est toujours relatif, mais je pense que oui, mes potes ils travaillent dans des associations avec des sans-papiers, avec des migrants, avec des... Voilà, des luttes qui étaient aussi là à l'époque, mais que voilà, vu comment le monde va et la précarité et tout, bah après il y a aussi toujours la question de l'intersectionnalité. Au TDV, c'est vrai qu'à l'époque, y avait beaucoup de gens très différents. On était des classes sociales différentes et tout, mais on restait quand même des personnes plutôt françaises ou européennes. Et je pense qu'aujourd'hui, on est plus consciente aussi de la galère du monde et comment on peut travailler avec nos privilèges et voilà, soutenir les autres personnes.
On va peut-être faire une petite pause musicale avant de terminer l'émission, parce qu'il est déjà 19h50. Et on écoute un autre morceau qui apparaît dans ton film, je crois.
Víctima de las heridas de los que te hacen heridas. Siempre creí que nunca podría alcanzarte. Daniela, la línea del metro ibas a lanzarte. Aunque mi corazón destrozaste, ya no estoy para nada triste. No soy la que descubriste, menos la que conquistaste. No tengo miedo y esta sonrisa siempre me desviste.
Et on arrive gentiment à la fin de l'émission. Du coup, j'ai une dernière question pour toi avant de terminer. Moi, en regardant le film, je me suis dit, c'est une vision assez idéaliste, assez romantique du TDB. Même si on voit que, même si on perçoit justement toutes les violences homophobes, transphobes et, qui sont vécues par les personnes et le pourquoi, l'intérêt de vivre dans ce quoi. Enfin, on comprend tout ça, mais ça donne l'impression que c'est le choix d'une vision romantique de l'endroit. Et je me demandais si c'était un choix et si tu pouvais l'expliquer.
Mais c'est vrai que moi aussi, parfois, je me dis, waouh! Avec tout ce que j'ai vécu et les années qui se sont passées. Même une amie m'a dit, je pense que le TDB, c'était plus négatif que positif pour toi. J'étais là, waouh. Ben, je pense que quand tu habites là et que tu as envie de faire un film sur ça, c'est pas évident de filmer les moments qui sont difficiles. Parce que tu es pris par la vie collective et voilà, j'ai pas filmé ça. Quand il y avait des urgences, il y avait beaucoup d'urgences. J'ai pas pensé à prendre... Sauf à la fin, du coup, on va pas trop spoiler, mais voilà, c'est qui montre la difficulté dans les films. Ça, je l'ai filmé aussi parce que j'ai senti que pour moi, le TDB allait finir et qu'il y avait une urgence de film, 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 parce que ça va finir. Et du coup, je pense qu'avec le film, j'ai voulu aussi raconter mon ressenti que quand je suis arrivé là, j'étais à fond. J'étais euphorique, j'ai pris de la drogue, j'ai relationné avec des gens, j'ai créé beaucoup d'amitiés très fortes avec des gens, la fête et tout. Et moi, j'imaginais pas ça au début. J'imaginais une vie en non-mixité, féministe, on prendrait soin les uns des autres, beaucoup plus calme. Mais je me suis laissé emporter par le mouvement du collectif et c'était beaucoup ça qu'on vivait. Et du coup, en vrai... Quand on faisait la narration du film et qu'on a fait les premiers montages, parce qu'on a fait beaucoup de montages avant d'arriver à ça, quand on a commencé à montrer ça à des gens, nous disaient, mais en fait, la fin et que tu pars, ça arrive brutalement et on ne l'a pas vu venir. Et du coup, on s'est prenait la tête, bon, qu'est-ce qu'on peut dire par la voix ou quelle image on peut choisir pour avancer et commencer à donner des informations pour à un moment arriver à cette chute. Et en vrai, je me suis dit, mais moi, je l'ai vécu comme ça, en fait. Moi, j'étais dans, dans mon rêve, j'étais waouh et tout. Et d'un coup, je pense qu'il y a eu la descente de la drogue, la descente de l'expérience, et que boum, c'est fini. Du coup, au final, même si c'est un peu brutal, je pense que ça correspond à mon ressenti de l'époque. Et que je pense que c'est aussi grâce au temps que j'ai pu aussi me rappeler de... Parce que si j'aurais fait le film juste après avoir vécu au TDB, ça aurait raconté d'autres choses. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour digérer émotionnellement cette expérience où j'ai créé des amitiés très fortes, j'étais amoureuse, j'avais des relations et c'était compliqué. Du coup, je pense que c'est bien d'avoir fait les films plus tard pour aussi pouvoir récupérer les choses jolies qu'on a vécues ensemble et pouvoir raconter cette histoire. Et je pense aussi que il y a des gens qui m'ont remercié aussi d'avoir parlé du conflit et des difficultés parce qu'ils ont aussi vécu des choses collectives et il y a la frustration, il y a la déception et ça fait du bien d'entendre que c'est comme ça partout et qu'on peut en parler aussi parce qu'il y a beaucoup la culture de la cancellation et je pense que voilà, qu'il y a peu d'espace pour pouvoir débattre et s'écouter et pas juste avoir ses idées et canceller l'autre personne ou quoi. Et que au final, je suis une romantique aussi et que je suis une utopiste et que dans ce monde que maintenant c'est trop la droite et tout, j'ai envie quand même de passer un message et dire mais en fait les squats ça sert et les queers quand on est ensemble on fait des choses trop bien et c'est difficile mais c'est comme partout et j'avais du coup envie de raconter plutôt cette histoire que la vraie histoire.
merci pour cette histoire en tout cas. C'était trop bien de voir ce film. Moi, je me suis sentie trop honorée de pouvoir le voir et de faire cet entretien ce soir. Et c'était un bon mot de la fin. Et peut-être quand même avant de terminer, on va dire les prochaines dates de ton film pour que les personnes qui nous ont écoutés puissent aller le voir. Alors, il passe à Cinespagna deux fois cette semaine. Il va passer une première fois mardi à 19h40 à l'ENSAV. Et il passe aussi samedi à 16h30 à l'ENSAV aussi. Et sinon, il y a aussi, si vous l'avez vu ou que vous voulez continuer l'expérience, il y a aussi une table ronde samedi à 11h à Ombre Blanche. Et c'est avec Irénée, avec les archives TPG et aussi avec d'autres cinéastes qui passent à Cinespagna et qu'on fait des films
Avec des archives.
Avec des archives, yes.
Et je voulais vous remercier aussi, quand j'ai entendu Marie au début, j'étais super émue d'un coup de vous imaginer ensemble à regarder les films et avoir, et discuter autour de ça, ça m'a trop touchée. Et merci beaucoup aussi pour ce soir, c'est super chouette que vous faites ça. Et merci beaucoup.
merci à toi, c'était trop bien. Et c'est la fin de l'émission, donc on va vous laisser avec la playlist de Canal Sud.